Soukher alaikoum, mazoul flaoun, bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Pour ceux qui nous suivent à partir de l'Amérique du Nord, il fait jour, il est 14h d'après-midi. Bienvenue à cette émission spéciale d'Alterna TV, dans laquelle nous allons rendre un premier hommage à Mohamed Harbi, figure majeure du mouvement national algérien et historien de référence de la lutte de libération. Intellectuel libre et rigoureux, il a consacré sa vie à une lecture critique de l'histoire de l'Algérie contemporaine, refusant les récits officiels et ouvrant, pardon, des espaces essentiels de réflexion sur la mémoire, le pouvoir et l'émancipation. Cette émission spéciale réunit un certain nombre d'intellectuels. Rachid Belhaddadi, chercheur en histoire, il est en train de faire une recherche justement sur la Fédération de France dans laquelle Mohamed Harbi avait milité. Nasser Djebi, sociologue, auteur prolifique sur les mouvements sociaux, notamment en Algérie. Dahou Djerbel, historien de renom, qui a écrit plusieurs livres sur l'histoire du mouvement national, notamment un livre consacré à la Fédération de France. Monsieur Ali Gnoun, historien également, il a rédigé aussi, publié un livre sur la Kabylie, sur la crise de 1949 et ami proche de Mohamed le défunt, donc Mohamed Harbi, décédé hier. Et enfin, monsieur, et non des moindres, monsieur Benjamin Stora, grand historien de la lutte de libération nationale, de la guerre d'Algérie, notamment, a co-publié, co-dirigé, je dirais, un ouvrage avec Mohamed Harbi consacré à la guerre d'Algérie. Donc, avec eux, on va revenir sur le parcours riche de Mohamed Harbi, son œuvre et l'héritage intellectuel qu'il laisse aux générations présentes et futures. Donc, un moment de mémoire, de transmission, pour rappeler combien la pensée de Mohamed Harbi demeure indispensable pour comprendre l'Algérie d'hier et éclairer les enjeux d'aujourd'hui. Bienvenue à tous les cinq. Merci d'avoir accepté notre invitation pour rendre ce premier hommage à Mohamed Harbi. Et je voudrais, pour commencer, faire un premier tour de table sur le militant du mouvement national qu'a été Mohamed Harbi, notamment par son engagement précoce dans le mouvement national, quasiment donc à l'âge de 15 ans, son engagement aussi dans les organisations estudiantines algériennes en France, puis évidemment son engagement dans la Fédération de France. Donc, je fais un premier tour de table. Je commencerai par Ali Gnoun, que je disais, donc proche notamment ces dernières années de Mohamed Harbi et de sa famille. Allez-y, Ali Gnoun.
Oui, en fait, il faut recadrer un petit peu les choses. C'est que je ne suis pas le seul proche ici de Mohamed. Moi, d'ailleurs, je l'ai connu par l'intermédiaire de Dahou. C'est Dahou qui me l'a fait présenter en 1998. Voilà. Et bon, après, une fois installé en France, j'ai continué à travailler avec lui. Alors, on parle d'hommage, mais en fait, notre rencontre d'aujourd'hui est intitulé Hommage à Mohamed Harbi, mais il faut juste préciser que de son vivant, Mohamed n'aimait pas les hommages. Hein, on a essayé à plusieurs reprises de lui faire, de son vivant, de lui faire des hommages, mais il a toujours refusé. En fait, le meilleur hommage qu'on peut rendre à celui qui nous a ouvert les portes d'une historiographie vraiment scientifique, débarrassée de toute tare, surtout tare de nationalisme réducteur, et bien sûr de continuer à suivre ses recommandations et de préserver, comme il l'a fait, dans la recherche, plutôt persévérer dans la recherche historique contre les difficultés de tout genre. Et Mohamed en a connu énormément. Vous savez qu'il était un historien qui était à la marge. Et je me souviens, il me parlait avec amertume de certains historiens qui utilisaient ces idées mais sans le citer. Hein. Mais l'hommage qu'on peut rendre aujourd'hui à notre maître, comme disait Amar Carlier, bon, notre maître, il l'appelait Shir, Amrar. Hein. Amar Carlier aussi nous a quittés en 2021. Donc, le meilleur hommage, c'est de faire attention au danger de ce qu'il a appelé lui-même, d'ailleurs, l'enfermement. L'enfermement, bien sûr, sur soi, sur sa tribu, hein, sur lesquels il ne cesse de nous alerter, et surtout ces dernières années. L'entre-soi est bien sûr parfois rassurant, mais il n'est qu'un envoûtement catastrophique. Il ne peut exister, bien sûr, de bon enfermement, comme il n'existe pas, bien sûr, une bonne violence. Le meilleur hommage qu'on peut rendre à Mohamed, c'est, je l'appelais, dans l'intimité, je l'appelais Demohand, et il l'acceptait avec volontiers, et de lire et de faire circuler ses écrits, ses idées qu'il n'a jamais accepté de monnayer. Et c'est très important. Il a fini sa vie avec une petite, petite retraite, mais il est resté digne. Hein. C'est un homme toujours debout, hein, contre vents et marées. Alors, Mohamed, bien sûr, il a connu le mouvement national à l'âge de 15 ans, et c'est la première rupture. Parce que moi, j'aimerais bien aborder son parcours, hein, comme un parcours de rupture, toujours en rupture avec quelque chose. Donc, à l'âge de 15 ans, la première rupture, c'était avec son propre père. Hein. C'est issu d'une famille bourgeoise. Mohamed a découvert au collège donc le nationalisme, et il s'est engouffré dans ce... Voilà. Et il est resté lui-même jusqu'à la fin de ses jours.
Merci beaucoup, Ali Gannoun. Je passe la parole à M. Dahou Djerbel, donc, pour la même question, donc, pour évoquer un peu l'engagement de Mohamed Harbi, très jeune, dans le mouvement national.
Oui, le problème pour moi, en parlant de Mohamed, ce n'est pas tant la question de l'âge, hein, qui me semble importante, c'est surtout le fait qu'à l'époque, qui était celle des années 50, et donc de la période du lycée, puis ensuite de l'université, la plupart des étudiants étaient originaires de familles de notables. Et puis la plupart de ces étudiants, auxquels, enfin, de ces lycéens et étudiants auxquels il appartenait comme couche sociale, avaient un avenir assuré, puisque leurs parents, leur milieu, leur permettaient de progresser dans le statut social qui est celui de, disons, de ce qu'on appelait d'une manière abusive les élites de l'époque. Or, Mohamed Harbi, dès ce moment-là, dès le lycée, et puis ensuite d'une manière plus affirmée à l'université, a rejoint les rangs du PPA. Et il a suivi ainsi l'engagement. Non, il n'était pas le premier dans la famille, il y avait déjà son frère aîné, Mahmoud Harbi, qui était un des militants les plus importants, les plus influents de la région de Skikda, dans le PPA. Et donc, c'est... et son plus jeune frère Nordin également en rejoint le mouvement nationaliste, mais le mouvement nationaliste indépendantiste. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des nationalismes réformistes dans lesquels se trouvaient les parents et les notables dont je parlais, et il y avait les militants nationalistes. Et dans le nationalisme indépendantiste, on avait très très peu d'intellectuels à l'époque, ou de gens qui avaient des titres soit universitaires ou le baccalauréat, ne serait-ce que le baccalauréat. Ceux qui ont fait le travail sur le mouvement nationaliste, en particulier Benjamin Stora, l'a signalé à plusieurs reprises, on se rend compte que les intellectuels, ce qu'on appelait les intellectuels, les diplômés de l'université, que ce soit en médecine, que ce soit dans d'autres disciplines, qui ont rejoint le PPA, étaient très, très peu nombreux. On pouvait les compter sur les doigts de, disons, de deux mains pour ne pas être trop restrictif. Tout le reste était dans le mouvement réformiste, c'est-à-dire celui de l'Udma en particulier, ou des ulama. Et ceux qui rejoignaient le PPA en tant qu'intellectuels étaient excessivement rares. On peut aussi faire référence aux mémoires de Mustafa Lachrof, qui parlait aussi de sa période, de très peu d'intellectuels qu'on va retrouver dans le mouvement nationaliste. Or, à ce moment-là, l'Union des étudiants algériens était une organisation où se retrouvaient des étudiants algériens, disons algériens de souche, et des étudiants européens. Puis le problème s'est posé de l'UGMA. C'est-à-dire on est passé de l'UGA à l'UGMA. Et Mohamed était parmi les étudiants, constitué une minorité, qui refusait qu'on ajoute cet attribut musulman à l'Union générale des étudiants algériens. Donc c'était un nationaliste indépendantiste, mais aussi qui était inclusif, qui avait une ligne inclusive de toutes les autres représentations de la des communautés algériennes des années 50 et puis du début de la guerre de libération. Ça, il faut le signaler, un nationaliste indépendantiste parmi les rangs d'étudiants réformistes, d'une manière générale, ou appartenant à des familles de notables, et donc intégrationnistes pour certains, et deuxièmement, ouvert à l'intégration dans l'organisation des étudiants algériens de toutes les autres représentations communautaires ou religieuses ou de confession. Voilà. Donc ça, c'est très important de le signaler. Très, très, très tôt. Il se distinguait, y compris des autres étudiants nationalistes indépendantistes, comme Belaïd Abslam ou comme d'autres étudiants qui ont marqué l'histoire de l'UGMA par la suite.
Merci, Tahou Djabel. Monsieur Benjamin Stora, auteur prolifique sur l'histoire du mouvement national, je le disais en introduction, vous avez co-signé ou co-dirigé plutôt un ouvrage, notamment avec Mohamed Harbi, intitulé « La guerre d'Algérie 1954-1962 ». Que pouvez-vous nous dire comme première intervention sur le parcours militant du mouvement national de Mohamed Harbi?
Ben, tout d'abord, merci de m'avoir invité, bien entendu. Je ne pourrais pas rester très longtemps avec vous, donc je vais essayer d'être bref. Moi, je l'ai rencontré en 1975 par l'intermédiaire de militants trotskistes, dans lesquels étaient Mohamed à l'époque, les militants pavlistes qui avaient rejoint, disons, les rangs de la révolution algérienne et qui étaient ensuite avec Ben Bella dans les années 62-65. Et avec qui j'étais en contact, et puis les militants nationalistes du PPM-TLD, messalistes, notamment la fille de Messali, Janina, qui m'a présenté Harbi en 1975. J'étais très jeune à l'époque. Donc c'est par l'intermédiaire, disons, de cette mouvance militante très politique que j'ai été très très proche de lui dans ces années-là, dans les années 75-90, dans la mesure où il m'avait expliqué son itinéraire. Effectivement, ça a été dit avant moi, qui était très, très indépendant, entre guillemets, parce qu'en fait, il n'était pas vraiment trotskiste. Il était quelqu'un qui était entré en politique par l'intermédiaire d'un autre groupe, qui est moins connu, beaucoup moins connu, qui est le groupe Socialisme ou Barbarie, qui était le groupe de Castoriadis, de Lefort, de Souhiri, et qui, parce que Souhiri était son professeur à Skikda, à Philippe Bill, de philosophie. Et il était déjà quelqu'un qui se méfiait, bien sûr, des réformistes, mais aussi, j'allais presque dire, des marxistes orthodoxes. C'est-à-dire qu'il était déjà un disciple.
Les staliniens, Benjamin Stora, ceux qu'il appelait les staliniens.
Il n'y avait pas simplement que les staliniens, il y avait les marxistes orthodoxes, y compris les trotskistes. Il n'était pas véritablement dedans sans être vraiment dedans, c'est-à-dire qu'il était déjà très critique y compris par rapport à ce groupe-là. Vous voyez, c'est compliqué hein, comme itinéraire. C'est vraiment un itinéraire d'homme indépendant. Hein. Ça a été dit avant moi, très bien, donc je n'ai pas insisté là-dessus. Et il m'a beaucoup aidé pour faire mon dictionnaire que j'ai sorti en 1985, parce qu'il avait le souci du détail, le souci de l'exactitude historique très précise sur chacun des personnages, et donc de confronter en permanence sa propre mémoire avec les archives que je lui apportais d'Aix-en-Provence, les archives de policières, donc de surveillance. Et donc, on confrontait sans arrêt, disons, il avait cette volonté d'être extrêmement méthodique, rigoureux, scrupuleux, de pas dire n'importe quoi, des dates de naissance, des dates d'entrée dans le mouvement national, y compris ceux qui se proclamaient comme entrant dès novembre 1954. Et alors là, il récusait cette notion, quoi, en disant, bah, si on les écoute, ils sont tous rentrés dans la révolution en novembre 54, ce qui est loin d'être le cas. Donc, on avait comme ça ces discussions sur chacun des personnages. Donc, il était à la fois quelqu'un de l'intérieur, disons, d'un mouvement national très particulier, radical, indépendantiste, et en même temps se voulant en distance critique hein, par rapport à cette histoire, notamment dès les années, avec quand je l'ai rencontré, quand il a fait aux origines du FLN, il était déjà complètement en distance critique hein, par rapport à l'histoire telle qu'elle était enseignée, dite, écrite, transmise à l'époque. Et notamment, là, il voulait absolument, disons, remettre à l'ordre du jour un certain nombre de personnages, dont bien sûr Messali. Donc il a été le premier d'ailleurs à écrire la biographie en 1977 dans une revue qui s'appelait Les Africains. C'est la première biographie de Messali qui m'a beaucoup aidé ensuite pour faire la mienne. Et donc il a par conséquent était véritablement un éveilleur dans le sens où il se comportait à la fois comme quelqu'un de très rigoureux sur le plan de l'écriture de l'histoire et en même temps quelqu'un qui parlait aussi de l'intérieur de cette société. Il n'oubliait jamais de la société de laquelle il venait, effectivement. C'est-à-dire la société algérienne, il avait cette caractérisation qu'on connaît, ça a été dit avant moi par Dahoud Gerbal, c'est-à-dire il arrivait effectivement d'une lignée sociale, disons, qui n'était pas plébéienne, pour reprendre une expression chère, Mohamed précisément, et il avait cette méfiance très forte vis-à-vis, y compris des intellectuels qui rejoignaient, qui avaient rejoint par la suite dans les années 56, 58, etc. Donc, il avait gardé aussi ce côté de distance critique, y compris hein, par rapport à ceux qui s'étaient engagés à l'intérieur du mouvement national. Donc, vous voyez que c'était quand même un personnage qui était compliqué, dans le fond, hein, qui n'était pas simple, qui voulait absolument exister et tracer son chemin, indépendamment des modes, bien sûr, indépendamment des courants idéologiques et déjà tracés, déjà existants, donc le PACS et tous les courants qui existaient dans les années 70-80, et évidemment, il était très, très opposé à ça. Et puis, bien sûr, on a divergé aussi, parce que dans le documentaire que j'avais fait, Les années algériennes, il n'était pas d'accord avec la place que j'avais donnée trop grande au massacre de Melouza, donc il me l'a reproché, donc on avait divergé, mais on est resté amis, c'est-à-dire qu'on était capable d'assumer des divergences sur cette question-là, qui était une grande question, une grave question, très très importante, et on est resté amis, et surtout, naturellement, lorsqu'il y a eu la terrible décennie sanglante, comme on dit entre guillemets, qui nous a fait se rapprocher tous les deux, parce qu'à l'époque, on était effectivement dans des situations très difficiles, puisque en 1995, il avait été menacé de mort. Il a été obligé de se replonger dans la clandestinité, ce qu'on ne sait pas, mais ce que je peux vous assurer, c'est que c'est vrai, il est obligé de quitter son domicile à Paris, rue Oberkampf, parce qu'il a été menacé. Donc c'était quelqu'un qui, par conséquent, a été un combattant toute sa vie, indépendamment, disons, des modes, indépendamment des préjugés, y compris de sa propre société. C'est-à-dire, y compris de penser contre lui-même et contre sa propre société, tout en restant fidèle aux idéaux d'égalité, de justice et surtout de liberté. Voilà à peu près un témoignage que je peux livrer sur lui, très personnel et très, très spontané.
Merci Benjamin Stora. Avant de donner la parole à Rachid Belhaddadi, je commencerai par Nasser Djabi. Et puis, je commence avant ça à répondre à une question insistante de la part de quelqu'un qui nous suit. À quelle année il est retourné en Algérie? Je pense que c'est en 91. Donc, après son exil, il est rentré en Algérie en 1991. Oustad Djabi, professeur Djabi, vous êtes sociologue, donc contrairement donc, aux autres invités qui sont historiens, chercheurs en histoire, vous êtes connu pour avoir analysé les mouvements sociaux en Algérie. Benjamin Stawra vient de dire que, bien sûr, Harbi était quelqu'un de gauche, il le disait. J'ai écouté le dire à plusieurs reprises dans ses vidéos qui sont disponibles sur YouTube, mais il n'était pas trotskiste, alors que dès son jeune âge, donc lorsqu'il était en France jeune étudiant, c'est la FLN chargé de contacter le PCI, le Parti communiste internationaliste, qui est un mouvement trotskiste. À l'indépendance, lorsqu'il est désigné par Bembella comme conseiller politique, notamment chargé du secteur socialiste, il est en contact encore avec les trotskistes, avec Pablo, Michel Raptis, pour ne pas le nommer. Et en apparent aussi que Benjamin Stora a fait la connaissance de Mohamed Harbi grâce à des amis trotskistes. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le profil de Mohamed Harbi, le profil politique, son idéologie? Il parlait d'idéologie, il s'est réclamé de l'idéologie marxiste, mais on n'arrivait pas à le situer parmi les différentes nuances de gauche qui existent.
مساء الخير وشكرا على هذه الدعوة اللي قدمتها لي رباح. وأنا أظن بأن أهم شيء في المسار تاع سي محمد الله يرحمه هو الاستقلالية، استقلالية رأيه. كان رجلا مستقلا، صدر لم يكن تابعا رغم أنه دخل وانخرط في حركة سياسية لا تقبل بسهولة الاستقلالية الفكرية والاستقلالية السياسية. سي محمد كان هذه الميزة تاعه، وربما إذا ما عندناش الوقت اليوم باش نناقشوا كل التفاصيل، هو اختار الحركة الوطنية الاستقلالية الجذرية هذه كابن لطبقة سياسية لم تكن حاضرة داخلها في التيارات. صدر لو نشاهدوا التاريخ السياسي، لو نحلل التاريخ السياسي الجزائري، حربي كان ممكن نصوروه نشوفوه في الحزب الشيوعي مثلا، أو في الحركات الاستقلالية اللي كانت موجودة، اللي ريفورميست هذول اللي كانوا موجودين في الشرق الجزائري خاصة وفي فرنسا عندما غادر هو الجزائر للدراسة. لكن هو فضل، أنا أظن بأنه قام بتحدي كبير جدا، فضل أن يتوجه نحو حركة تندونس بليبيان تاع الشعب، وين من الصعب أن يكون عندك حوار فكري، حوار سياسي، أن تحافظ على استقلاليتك، أن تكون مستقل. كان صعب عليه، وفي بعض الأحيان يتكلم حربي في كان قريب من الموت، يعني كان قريب من التصفية الجسدية عندما دافع على مواقف. كذلك لم يكن مقبولا كثيرا من اليسار الرسمي، هذا من اليسار الشيوعي. حربي لم يكن مقبولا حتى الآن، كثير من الرفاق من تيارات هذه السياسية اليسارية لم تقبل بكل آراء حربي، ما زالت تنتقده حتى الآن وتقول عليه أشياء كثيرة. إذا حربي أنا أظن بأن أهم ميزة على شخصيته كمؤرخ وكرجل سياسي وكمناظر في الحركة الوطنية بمختلف أشكالها من الحركة الطلابية، يكفي موقفه من الحركة الطلابية داخل الميم هذاك الأم الفامو أم دي موفمون إتوديان، وين إلى بري دي بوزيسيون اللي ما كانوش دائما مفهومين لا من الحزب القوي تاعو هذا الحزب الشعب وحركة الانتصار، ولا من قبل الحركة الطلابية. إذن الرجل أنا أظن بأنه دفع ثمن، حربي دفع ثمن غالي، ثمن استقلاليته. هذا هو الشيء الذي يميز أنا أظن سي محمد الله يرحمه، أنه كان مستقلا وما كانش يخاف أنه يتخذ في الوقت المناسب المواقف التي يراها بأنها صحيحة وأنها يجب أن تكون مواقفه. رغم كما قلت في البداية هذه الأصول الاجتماعية، لأن المسألة تاع محمد حربي يطرح مشكل جدي، هو كيف يمكن أن نتصور وجود بين قوسين برجوازي مثل حربي بعائلة مالكة ذات ارتباطات، كانت عائلته بعض أفراد عائلته على مستوى الأجيال الكبيرة في السن كانت مرتبطة بالإدارة الفرنسية، عنده الجزء تاع العائلة الآخر اللي مرتبط بالتيارات الدينية المحافظة، جمعية العلماء من خلال خواله. إذن هذا المسار هذا وهذا الارتباطات نقدر نقول السوسيولوجية والثقافية، وكيفها عاشها سي محمد الله يرحمه، وكيفاش عرف يخرج منها واقف. وهذا ربما أحسن الكتاب تاعه تاع نوم دبو، كيف خرج واقفا إلى آخر دقيقة، إلى آخر دقيقة من حياته لم يتنازل، عندما اقترب من بلا لم يتنازل إلى بن بلا، عندما اقترب من اليسار كان مستقلا مع اليسار، كان مستقلا مع الحركة الوطنية. نظن هذه قوة سي محمد الله يرحمه، أنه كان رجل فكر وممارسة، وربما بعد ندخل في التفاصيل، كتب الذي يعاب على محمد حربي من قبل زملائه وأصدقائه والتيارات السياسية التي تعامل معه معها، أنه كتب. الجزائريين لم يكتبوا ولا يحبون من يكتب سردية تاريخية مختلفة عن السردية الرسمية، حتى الناس اللي كانوا معه، حتى الناس اللي كانوا معه في الحركة الوطنية ما قبلوش منه أنه يكتب أشياء خارج ما هو متفق عليه في السردية التاريخية. نظن بأن هذه هي قوة سي محمد الله يرحمه، استقل، كان مستقلا، كان متفردا، وكان متميزا، وحافظ على استقلاله ودفع الثمن غاليا لآخر دقيقة. يعني الدليل على ذلك أنه هم مشى في الجزائر، بعض الزملاء يكتبوا يقولوا بأنه كان لم يكن منفيا، وكان يدخل الجزائر، وكان يأتي للجامعات، هذا غير صحيح. بالطبع لم يكن ممنوعا حتى البداية من أكتوبر، من أحداث أكتوبر، لكنه لم يكن مرحب به سي محمد حربي، لم يكن مرحب به، الجامعة لم تفتح له، كتبه لم تترجم. أنا البارح وأنا نسمع نشوف التلفزيون العمومي وهو يتكلم على ذكرى على وفاته، ما كانش صورة واحدة تاع التلفزيون العمومي الجزائري حول مع حربي. معناها هذا قمة، عاش حالة تهميش كبيرة جدا الله يرحمه.
شكرا أستاذ نصر. جابي سي بنجامين ستورا، اسكو فو كومبريني ان بو لاراب؟ سي بارفي. دونك جو مو تورن فير رشيد.
رب حنا اوسي اون ان بوبليك اون اراب كي بارل كي كومبرون بو لوغلوس، دونك فو فير
جي بوزي لا كيسيون. Oui, oui, exactement. J'aurais pu faire un petit résumé à Benjamin Stora, mais tant mieux qu'il comprenne, l'arabe. Rachid Belhaddadi, je vous ai laissé en dernier parce que je sais que vous vouliez intervenir sur l'engagement de Mohamed Harbi à la Fédération de France. Je pense que c'est le principal engagement de Mohamed Harbi dans la lutte de libération nationale, hormis justement son engagement dans les organisations estudiantines. Mohamed Harbi a intégré la Fédération de France, je pense, en 1956. Il a été élu au comité directeur. Donc, un an après, il était notamment responsable de la commission information et de presse. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus, Rachid Belhaddadi? Allez-y. Vous qui faites un travail de recherche sur la Fédération de France, et que vous comptez publier prochainement donc un livre consacré à cette Fédération de France. Allez-y.
Le livre en question, normalement, devrait être publié cette année, et c'est dans le cadre justement de la préparation de ce livre que j'ai été amené à m'intéresser à la biographie de l'ensemble des militants qui ont été au sein des différents comités fédéraux de la Fédération de France du FLN, donc c'est 1955-1962. Donc, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est une rétrospective de l'histoire du parcours de Mohamed Harbi à l'intérieur de la Fédération de France du FLN, donc de 55, on va dire, jusqu'à 1958, septembre 58, où il est parti, donc, où il est parti de la Fédération de France du FLN. Donc, rapidement, des moments peut-être importants, si les gens le jugent nécessaire, j'y reviendrai, mais l'information est tellement dense que je vais probablement juste survoler quelques aspects importants. Donc, si on revient un peu à l'histoire de la Fédération de France du FLN, je ne touche pas le MTLD, elle a vu le jour, selon la majorité des experts, autour de janvier 1955, quand Murat Erbos a été mandaté par Boudiaf pour donc constituer la toute première fédération. Tarbouche, donc, il s'est entouré de militants connus à l'époque au sein du MTLD, essentiellement Zerouki, Ali Mhsas, Mahdi, Abdelrahman Garras, Doum, certains le mentionnent, mais Doum, d'après lui-même, il a rencontré Tarbouche une seule fois. En fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que il y avait également beaucoup de gens très connus qui avaient refusé d'intégrer le premier comité fédéral de janvier 1955. Je citerai pêle-mêle donc des gens très connus comme Ahmed Boumendjel, comme Tayeb El Harouf, Dr Mostafaï Chaouki, je crois. Et Harbi également fait partie des personnes qui ont refusé d'intégrer le premier comité fédéral de la Fédération de France du FLN. Donc, ce premier comité, il a été décapité autour de fin mai 1955. C'était l'hécatombe. Oui, je n'ai pas cité tout à l'heure Abdelrahman Garras. C'est l'un des rescapés, peut-être l'un des rares rescapés de cette première fédération de France. Et c'est lui qui va constituer la deuxième fédération de France. Donc, il va intégrer Ahmed Doum, Mohamed Mousiaté et Fodil Ben Salem. Ça, on parle vraiment début de l'été 1955 ou, si vous voulez, fin du printemps 1955. Ce groupe de quatre, communément appelé la bande des quatre, a été rejoint par tout d'abord Salah Louanchi, fin novembre 1955, puis Ahmed Talib Ibrahimi, mars 1956. Deux autres aussi membres ont intégré le comité fédéral. Il s'agit de Tayeb El Harouf et Mounji Zine Abidine. Mais là, on parle vraiment de la fin du printemps 1956. Donc, et c'est là qu'intervient, si vous voulez, l'histoire de Mohamed Harbi, qui a intégré le comité presse-information qui était dirigé à l'époque, dès le départ, donc par Tayeb El Harouf. Pour que ça intéresse, et en fouinant un peu dans le parcours de Fodil Ben Salem, que j'ai pu reconstituer comment Mohamed Harbi a été intégré suite à une rencontre avec Ahmed Talib Ibrahimi tout d'abord, puis avec Tayeb El Harouf. Donc, on part de l'été 56 jusqu'à l'été 57. Mohamed Harbi va travailler sous la direction de Tayeb El Harouf. Ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir une deuxième hécatombe, l'été 1956. L'hécatombe va la toucher trois des quatre de la fameuse bande des quatre, à savoir Garras, Mousiaté et Ben Salem. Ils ont été arrêtés à l'été 1956. Seul a échappé Ahmed Doum, mais lui, trois mois plus tard, fin novembre, il va également être arrêté. Et là, on est au printemps 1956. Et c'est vraiment une période de flottement parce qu'il y a une tentative pour créer un comité d'organisation. Mohamed Harbi y était impliqué. Il n'était pas le seul. Il y avait aussi son ami Mas'oud Gedrouj. L'objectif, c'était de prendre le pouvoir au sein de la nouvelle Fédération de France parce que ce qui faisait cette Fédération de France, c'est essentiellement les trois qui ont été arrêtés l'été 56, en particulier Abdelrahman Garras. Ce qui arrive, c'est qu'on est à la fin de l'été, début de l'automne 1956. Il y a eu le congrès de la Souma, mais tout de même qui arrive en France avec les résolutions du congrès de la Souma, mais il a rencontré beaucoup de personnes au sein de la Fédération. Il a calmé la situation qui prévalait à l'époque. Et un mois plus tard, c'est le Bzaoui qui arrive. Mohamed Bzaoui est arrivé, c'est Abben qui l'a nommé comme nouveau responsable. Là, on parle de décembre 56. Donc, Mohamed Bzaoui comme premier responsable de la Fédération de France du FLN, donc en prévision de la fameuse grève qu'on connaît tous de fin janvier 1957. Mais ce qui est arrivé, c'est que l'Ebdjaoui, le règne de l'Ebdjaoui, si vous voulez, il a duré un peu moins de 2 mois, puisque la fin février 1957, troisième hécatombe, probablement la plus importante, qui a été opérée par les services français, donc les deux nouveaux membres du CNRA, que sont Salah Louanchi et l'Ebdjaoui a été arrêté, Ahmed Talib Ibrahim également a été arrêté, et une panoplie d'autres responsables de premier plan. C'est là intervient de nouveau un moment très fort, peut-être que à ma connaissance, je n'ai pas beaucoup rencontré chez nos historiens, si ce n'est dans une des 23 vidéos que Harbi a faites. En fait, ce que Harbi a fait, il a pris l'initiative de diffuser un tract. Il y a un communiqué qui est paru dans le journal Le Monde. Il est consultable, là, ce communiqué. Il est signé direction de la Fédération de France. Donc, il a laissé ainsi croire qu'il y a une nouvelle direction qui a été constituée. Alors que lui, il a fait ça de connivence avec un certain nombre de personnes qui étaient avec lui, pas forcément à Paris, mais qui étaient, on va dire, dans les différentes wilayas françaises. Et il y avait Tayeb Boulhrouf et Ali Boumendjel Ahmed Boumendjel qui avait échappé à l'hécatombe. C'est les seuls membres qui ont échappé à l'hécatombe, qui était justement étonné de trouver parce que ce que Ahmed Boumendjel a fait, il a essayé de contacter le journal Le Monde pour faire passer un communiqué. Et on lui a répondu, un célèbre journaliste très connu lui a répondu, le communiqué est déjà sous presse. En fait, c'est celui que Mohamed Harbi a communiqué. Donc, c'est une initiative fort louable. Il va falloir peut-être que nos chercheurs s'y intéressent d'un peu plus près à cet événement-là. Il mérite qu'on s'y arrête. Alors, j'arrive à quelle année
rapidement, Rachid Belhaddadi, parce que le temps passe. Oui.
Alors, je vais passer peut-être dans ce cas rapidement. On est à la troisième hécatombe, la plus importante. Ce qui arrive, il y a un intérim que Boulhrouf assume. Donc, c'est le chef intérimaire, tout en étant responsable de la commission presse et information où travaillait Mohamed Harbi. Jusqu'à juin 57. Juin 57, on se rappelle tous, là, suite à la fameuse bataille d'Alger, Abban qui est allé en Tunisie en passant par le Maroc, il a rencontré Omar Boudaoud, qui l'a nommé nouveau responsable de la Fédération de France du FLN. Donc, juin 57, ce qui est arrivé, c'est qu'avec la nouvelle nomination de Boudaoud, c'est Boulhrouf Boumendjel qui ont quitté. Et dans le nouveau comité fédéral, il y avait Mondji Bouaziz, qui a été dépêché par la Wilaya 4 pour justement ouvrir le front en France. Et Abdelkrim Souissi, mais lui, il va être arrêté 2 ou 3 mois plus tard. C'est important de mentionner, parce qu'il y a beaucoup de questions qui vont se poser après, c'est que quand il est arrivé en France, à ma connaissance, Boudaoud ne connaissait personne. Donc, il a demandé à ce que le comité fédéral soit étoffé. Et c'est ainsi que l'Adlani, qui était le responsable de l'organique, a suggéré l'intégration de Mesoud Gedrouj et Mohamed Harbi, qui va s'occuper de la presse et de l'information. On arrive à l'été... Oui.
Oui, quand concluer, oui, parce que d'autant que Benjamin Stora doit nous quitter dans un moment, oui.
L'été 57, on est en pleine guerre. Le boom de la guerre se situe à cette période-là entre le FLN et le MNA. Et Harbi, dans le nouveau comité fédéral, à chaque fois, il ramenait au sein du comité fédéral l'idée d'arrêter les hostilités. Or, ce qui est arrivé, ça s'est exacerbé parce que la majorité des leaders du MNA ont été éliminés, on va dire, à l'automne 1957. C'est sûr que ça a exacerbé un peu la relation que Harbi avait entretenue avec bon nombre des autres membres du comité fédéral. Je pense que je ne vais pas m'arrêter sur ça. Autre dossier, également juste le mentionner, de désaccord entre Harbi et les autres membres du comité fédéral, c'est l'ouverture du deuxième front. On y reviendra au besoin tout à l'heure. Harbi était opposé à l'ouverture du deuxième front. Deuxième front qui était prévu de longue date, mais qui a été retardé à cause de la guerre fratricide auquel j'ai fait référence. Autre dossier aussi avec lequel Harbi n'était pas en accord, le déménagement. J'arrête avec ça. le déménagement en Allemagne.
Il était en Allemagne, oui. C'est l'objet de ma prochaine question, Rachid. Oui, oui.
Ok, si tu as une question sur ça.
Voilà, je vais commencer maintenant avec Benjamin Stora. Comme je disais, il doit nous quitter. D'abord, il y a quelques questions, je ne sais pas si vous les avez vues de la part d'internautes et qui vous sont destinées. Mais ma question, elle porte sur la Fédération de France. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire avec l'intervention qui vient d'être faite par Rachid Belhaddadi. Mais sinon, moi, j'ai écouté quelques vidéos sur YouTube de Mohamed Harbi. Il disait qu'il a été, qu'on lui a transmis la décision du FLN de sortir la direction de la Fédération de France pour la déménager à Cologne, en Allemagne, et qu'il est parti. Alors que finalement, il a appris notamment de la part des écrits de Dahou Gerbel, qui avait rencontré quelques membres du comité bien plus tard dans le cadre de ses recherches, qu'on voulait évincer le courant marxisant. Et c'est pour ça qu'on a sorti des membres de la direction donc, vers l'Allemagne. Puis ils ont été remplacés en France par une autre équipe. Allez-y, Benjamin Stora, votre micro est désactivé. Oui. Votre micro est désactivé.
Une seule précision que j'avais eu l'occasion de discuter avec lui, c'était bien sûr sur ce qu'on appelait les règlements de compte à FLN MNA, qui ont été absolument terribles. Notamment dans l'année 57, lui m'a expliqué souvent qu'il était opposé, bien sûr, à ces règlements de compte et qu'il approuvait à l'époque la décision qu'avait prise Ben Bella. Il avait lancé un appel, Ben Bella, en septembre 57, pour arrêter ces règlements de compte. Et dans le fond, ce qui l'avait bouleversé, ça a été l'assassinat de Filali en octobre 1957, et B4 aussi, qui était le secrétaire général de l'USTA. Et ça, ça l'avait beaucoup marqué. Ça, c'est un témoignage personnel. Il s'était vraiment opposé à ces règlements de compte absolument meurtriers. D'ailleurs, il en a beaucoup parlé de ça dans le FLN Mirage et Réalité, puisqu'il a utilisé l'expression « la guerre dans la guerre », c'est lui qui a utilisé cette expression hein, dans le FLN Mirage et Réalité, c'est-à-dire qu'on a eu effectivement cet affrontement fratricide qui l'avait lui beaucoup marqué hein, dans l'année 56-57, mais pas avant, pas en 54-55, mais ça, surtout dans l'année 57. Quoi. C'était vraiment l'année la plus terrible selon lui. Quoi. Voilà, je voulais simplement vous donner ce... C'est un témoignage tout à fait personnel qu'il avait beaucoup marqué personnellement dans son itinéraire militant, bien sûr, par rapport au responsable du comité fédéral. Voilà, sinon, je sais pas, s'il y a d'autres questions, je veux bien répondre.
Enfin, il y a des questions sur votre collaboration avec Mohamed Harbi. C'est une internaute qui l'a posée. Comment ça s'est passé sur l'ouvrage que vous avez co-dirigé ensemble?
Ben, ça a été une collaboration qui a duré un peu plus d'un an. On a fait appel à différents historiens. L'essentiel, c'était d'avoir effectivement le maximum de points de vue sur cette histoire, qui était une histoire, comme on le sait, qui est très difficile à écrire, mais avec quand même un objectif, c'était d'expliquer que la question, enfin, selon moi et lui aussi, que la question de l'indépendance de l'Algérie était un fait sur lequel on pouvait pas revenir. Donc il y avait c'est aussi cette discussion avec certains historiens français en particulier qui étaient comment dirais-je à cette époque-là, vous savez il y a longtemps maintenant, c'était il y a 20 ans hein, qu'on a fait ce travail, plus de 20 ans, 25 ans maintenant. Il y avait certains historiens français dont certains sont décédés d'ailleurs qui étaient disons sur une orientation plutôt de réhabilitation hein, de ce qui avait été l'apport de la France, du colonialisme, etc., etc. Donc, il y a eu effectivement des discussions assez difficiles. Hein. Et on a eu une discussion difficile aussi sur la question des harkis, avec la communication qui avait été faite. On avait discuté beaucoup hein, sur l'opportunité ou pas de publier, disons, lui il était pour publier cette communication bien sûr, mais avec des nuances, je ne peux pas rentrer dans les détails, hein, je vous donne simplement un survol hein, général, mais son objectif quand même c'était d'essayer le maximum, d'entendre le maximum de voix, qui s'expriment au sujet de cette histoire, et notamment à l'époque, de la jeune génération des chercheurs historiens. Je me souviens, à l'époque, c'était Sylvie Thénault, Raphaël Branche, Linda Améry, qui étaient les nouveaux historiens, des gens qui avaient 30 ans à cette époque-là, dans ces années-là. Et donc, il fallait absolument transmettre, leur donner la parole, leur faire de la place pour faire en sorte que ce recueil soit le plus large possible. Et puis, leur dernier point, c'est qu'on a eu quand même une difficulté à régler, mais c'est un petit secret, c'est la présence de Jean Daniel dans ce livre. Parce que Jean Daniel connaissait très bien Mohamed Harbi, bien sûr.
Oui.
Ça datait de la guerre d'indépendance, bien entendu. Et Jean Daniel voulait absolument intervenir, mais sauf que le problème, c'est qu'il intervenait comme acteur de cette histoire, alors que nous, on voulait faire un livre d'historien. Donc, si on ouvrait sur la possibilité d'un acteur, pourquoi un acteur français? Dans le fond, on aurait pu ouvrir sur beaucoup d'autres acteurs algériens. Et quels acteurs? Qui était encore vivant à cette époque-là, dans les années 2003-2004. Donc, on a eu comme ça cette discussion un petit peu difficile. Vous voyez, je vous donne un peu les coulisses du travail de ce livre qui a été très long, mais qui a remporté un très, très grand succès, puisqu'il a été réédité en poche, il a été traduit, publié en Algérie, je crois chez Casbah Édition ensuite, dans les années 2000, et ça a remporté un très grand succès. Ce qui a été intéressant, c'était la pluralité des points de vue qui étaient donnés dans ce travail. Voilà, je vous remercie.
Merci Benjamin Stora. Je ne sais pas si vous restez encore quelques minutes avec nous, mais il y a un internaute qui dit dans le tour de table, la parole n'a pas été donnée à Ali Gnoun. Si, et ça a été le premier à prendre la parole. Justement, peut-être vous nous avez rejoint après le début. Et je lui donne tout de suite la parole. J'espère que Dahou Djerbel va pouvoir se reconnecter, se déconnecter. On a souvent ce genre de problème avec des invités. Ali Gnoun sur la Fédération de France. Moi, j'ai écouté Mohamed Harbi dans une de ses vidéos où il disait que, fondamentalement, lui, avec quelques membres de la Fédération, il n'était pas favorable à la lutte armée en France. Donc, il l'a exprimé. Deuxième des choses, c'est qu'il avait demandé des informations sur la stratégie militaire du FLN et on ne lui a jamais répondu. Donc, qu'avez-vous à nous dire, justement, sur les divergences qu'il a pu avoir dans la Fédération de France, entre la Fédération de France et la direction du FLN? Votre micro aussi. Là, c'est bon.
Voilà.
C'est bon.
OK. En fait, il y a énormément de choses à dire. Comme vient de le dire Benjamin, il ne faut pas aller dans les détails, etc., parce que ce n'est pas le moment, quoi. Ce n'est pas le moment. Par contre, juste deux ou trois choses. La première, il faut dire que Harbi ne s'est pas exilé, c'est-à-dire qu'il n'a pas choisi l'exil. C'est très important de le dire et de le redire. Harbi a été arrêté en juin 1965. Il a été, il s'est opposé au coup d'État de Houari Boumediene et donc il a été arrêté. Il a été arrêté. Emprisonné. Alors, il dit, lui, il dit qu'il n'a jamais été torturé. D'autres, si. Et donc, après la prison, il a été déporté dans le sud algérien, à Draa, à Timimoun, etc. Mm-hmm. Puis après, il a été rapatrié à Skikda. Et je vous assure qu'en 2008, j'étais avec lui à Skikda. Et il m'a montré son appartement, son ancien appartement. Et donc, il m'a dit, qu'est-ce que tu vois de bizarre dans ce quartier? Ben, j'ai dit, je ne vois rien de bizarre. Il m'a dit, regarde en face de mon appartement, qu'est-ce qu'il y a? C'est un commissariat. Il m'a dit, eh bien, ce commissariat n'existait pas avant mon arrestation et avant ma déportation, enfin la résidence surveillée à Skikda. Donc, vous voyez, donc après, il m'a montré aussi autre chose au niveau du port de Skikda. Il m'a montré l'emplacement d'une ancienne gargote. qu'un de ses amis occupait. Et bien, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, tu sais, le bonhomme, qui était un très bon ami, m'a dit, quand j'ai décidé de fuir l'Algérie, bien sûr, clandestinement, il m'a dit, je ne l'ai pas informé. Eh bien, le bonhomme, pourquoi il ne l'a pas informé ? C'était pour le protéger, hein, pour dire, voilà, il ne sait pas. Et bien, le pauvre, il a été torturé, même s'il n'a pas été... informé. Donc, c'est très important de souligner cette chose, c'est que Harbi n'a pas choisi la France comme ça. Hein. C'est parce qu'on l'a obligé, c'est parce qu'il a fui l'injustice, il a fui sa résidence surveillée. Deuxième point, Nasser, et je te remercie, tu as parlé de Harbi qui n'était pas bien accueilli en Algérie. D'ailleurs, il n'a fait aucun cours dans aucune université algérienne, même si, bien sûr, il a fait des conférences un peu partout. J'en ai fait avec lui, mais il n'a jamais été. Et d'ailleurs, on a programmé, Dahoun est malheureusement parti, et des amis comme Dahoun ont programmé une conférence à l'Université d'Alger, et elle a été annulée à la dernière minute. Alors, en fait, Mohamed a toujours dérangé. Il a toujours dérangé au mouvement, dans le mouvement national. Il a dérangé les premiers pas du FLN. Il a dérangé Fédération de France. Il a dérangé. Alors, si on parle de la Fédération de France, bien sûr, il s'est opposé à l'utilisation de la violence. Pourquoi ? Parce que déjà, il était contre la violence, mais en exerçant une violence armée en France, c'est-à-dire que pour lui, et c'est vrai, le FLN allait perdre tous ses amis. Mohamed dérangeait aussi parce que il ne voyait pas la lutte armée, enfin la guerre comme une guerre hostile aux Européens, etc. Il ne voyait pas la guerre comme une guerre de religion. Hein. Il était contre donc cette question de religion. Et bien sûr, et toute sa vie, il a voulu dissocier entre la religion et la politique. Dahou, tout à l'heure, a parlé je pense que c'est Dahou, a parlé du fameux M. Il y a eu tout un débat. Et le débat n'a pas commencé en 56. Il a commencé en 55 déjà. Et même, peut-être même avant 55. C'est-à-dire que juste, enfin, les premiers pas du FLN en France, eh bien, lui, il était là. Et il a réuni, enfin, ils se sont réunis entre les intellectuels du FLN et lui et d'autres, Inal et d'autres, voulaient défendre la pluralité de l'Algérie. Hein. Quand on dit pluralité, en fait, et on le voit, par exemple, dans ses écrits, il montre l'apport des militants de gauche, des juifs communistes, des démocrates chrétiens. Donc, il n'excluait personne. Hein. Il n'excluait personne et au contraire, il voulait les gagner à cette lutte pour l'indépendance du pays. Donc, en fait, Mohamed dérangeait, et dérange jusqu'à maintenant, et je me souviens, moi, son livre ses premiers livres, soit aux origines du FLN, ou bien le FLN Mirage Réalité, étaient interdits en Algérie. Des gens, moi j'ai eu des témoignages de militants qui ont été arrêtés parce qu'ils portaient dans leur bagage les livres de Mohamed. Et je me souviens très bien, moi j'ai lu le FLN Mirage Réalité au lycée Amirouche de Tizi Ouzou. Et comment ? C'était un camarade qui s'est débrouillé une photocopie. Et je me souviens, c'était un document vraiment à peu près, on voyait quelques... Enfin, il y avait des trous, hein, parce que tout le monde... Tous mes camarades voulaient lire cet écrit. Donc, les écrits de Mohamed étaient interdit en Algérie. Donc, et contrairement à tous les autres, enfin à une bonne partie des autres militants, et il montre que l'histoire de la guerre, du mouvement national et de la guerre d'indépendance est une guerre secouée par des crises. Donc, quand on lit par exemple le FLN Mirage et Réalité, il l'explique dans son introduction. Il va vers les années 30 et 40 et remonter jusqu'en 1962. Et il montre à chaque moment donc, des moments de crise. Et ces moments de crise, en fait, il détruit l'image qui montre que la guerre ou le nationalisme en général était un fleuve tranquille. On disait, on présentait cette guerre comme une guerre pure, Thawra al-Mutahara. Et lui, il déconstruit tout ça parce qu'il dit que si on considère cette révolution comme étant une révolution pure, donc elle n'a pas été faite par les hommes. Et donc, il voulait en quelque sorte montrer la réalité des choses. Voilà. Et puis, autre chose, c'est-à-dire que les positions de Mohamed pour plus tard, c'est des positions.
Rapidement, s'il vous plaît.
Pardon ?
Rapidement, je veux dire.
Sur la diversité. Sur la diversité.
Je vais vous laisser.
Voilà.
Merci. Je sais pas, si vous avez un dernier mot à nous dire, Benjamin.
Non, je laisse la parole aux autres qui sont là depuis.
Parfait. Ali Gnon, pardon de vous avoir interrompu. Allez-y. Terminez.
Oui, non, je disais que aussi il y a aussi la question de la diversité, la diversité de la société algérienne. Et il disait que la société, enfin la nation algérienne est une nation en construction. Et ne pas le voir, c'est se voiler la face. Voilà ce que je voulais dire. Je vais laisser les autres amis parler.
Merci Ali Gnon. Dahoud Djerbel, je voudrais vous entendre sur les circonstances dans lesquelles Mohamed Harbi quitte la Fédération de France avant de rejoindre un peu plus tard justement le Tunis et devenir un des collaborateurs de Krim Belkacem.
Oui. Je crois qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on aurait pu discuter sur la question du rapport au messalisme, du rapport aux autres courants qui constituaient le mouvement nationaliste algérien, qui pourrait nous informer sur une ligne de force, disons un dénominateur commun de toute la démarche de Mohamed, depuis son entrée au PPA jusqu'à la fin de sa vie. Au fond, en tant que militant politique, il donnait la primauté aux politiques sur le porteur d'armes. Ça, c'est vraiment la ligne de faille dans laquelle il s'est inséré. Et donc, quand on est dans une brèche, le risque, c'est que cette brèche se referme contre vous-même. Et donc, à ce moment-là, la première installation dont on a parlé tout à l'heure avec une chronologie très détaillée, très longue, le problème était en fait le contrôle de la Fédération de France, enfin de la délégation du MTLD, la délégation extérieure du MTLD installée en France, par ou la tendance messaliste ou la tendance nouvelle FLN qui se mettait en place. Donc il y a une lutte pour le contrôle de la Fédération de France entre messalistes et représentants de la nouvelle organisation FLN. Et cette lutte a continué tout au long des années 54 jusqu'à 1958 environ. Et elle a continué sous la forme d'affrontements entre groupes de choc. Groupes de choc messalistes et groupes de choc FLN. Et ces affrontements ont dégénéré en tuerie, en assassinat, qui ont atteint des éléments qui sont extrêmement importants dans la transmission de la culture nationaliste indépendantiste dans le mouvement national algérien. Parce que le messalisme est aussi un creuset du nationalisme, et sinon le creuset initial, originel du nationalisme indépendantiste. Et donc ce qui était visé dans les affrontements, et en particulier, il faut le rappeler, après l'arrivée après le congrès de la Soumane et l'arrivée de Abben comme responsable de l'organisation du FLN, et des instructions ont été données pour se débarrasser de la tendance messaliste en France. Donc là, les affrontements se sont endurcis. Et là, Mohamed Harbi était contre cet affrontement, cette lutte intestine entre nationalistes algériens indépendantistes. Et ce qui a été dit, donc je ne vais pas le répéter, donc il continuait à l'intérieur du comité fédéral de la Fédération de France de militer pour une entente, pour un accord entre les différentes tendances du nationalisme indépendantiste algérien. Et ce qui a fait capoter cette volonté à l'intérieur de la Fédération de France d'un certain nombre de militants qui le soutenaient, c'était l'assassinat de Abdullah Fidalé, qui était en fait l'un des plus illustres militants du nationalisme algérien depuis les années 50. C'était, on disait, le bras droit de Messali, mais sur le plan organique, c'est lui qui était le plus important militant, recherché par toutes les polices, condamné à mort à plusieurs reprises. Et bien voilà, il fait l'objet d'un assassinat. On lui tire dans le dos pour l'éliminer sur instruction du comité de coordination et d'exécution. Il faut le rappeler. Et donc là, c'est la première crise interne que Mohamed Harbi subit à l'intérieur même du comité fédéral. Deuxième ligne de force, Mohamed Harbi était pour, en tant que responsable de la commission de presse et information, pour constituer un courant à l'intérieur de l'opinion publique française favorable à l'indépendance de l'Algérie. Et il considérait que le passage à la lutte armée en territoire français, compromettait, hypothéquait cette possibilité politique de créer un front entre Algériens et Français pour l'indépendance de l'Algérie. Ça, c'est aussi un élément extrêmement important dans ses témoignages et dans tous ses écrits. Enfin, l'ouverture du second front est décidée en 1958, en août 1958, donc la réunion de tous les responsables du comité fédéral et des responsables des wilayas, des différentes wilayas de France en Allemagne, là, Mohamed Harbi dit qu'il n'était pas d'accord avec l'ouverture d'un second front en territoire français, et la divergence a été telle qu'il était acculé à déposer sa démission. Et Omar Bouldaoud lui dit, dans le FLN, on ne démissionne pas. Quand on rentre dans le FLN, on ne sort que les pieds devant. C'est-à-dire, c'est une menace directe contre sa propre vie qui est prononcée. Et donc, il est amené à quitter la Fédération de France pour ensuite rejoindre par l'Italie et pour rejoindre la Tunisie et donc être intégré dans les appareils de la représentation du FLN en Tunisie. Donc ça, c'est extrêmement important, qui constitue aussi ce qu'on disait auparavant à propos de l'Union des étudiants générale des étudiants musulmans algériens. Il était pour l'intégration de tous les courants, mais en termes de direction politique et non pas en termes de lutte armée. Donc la lutte armée, il n'était pas contre, mais pour le territoire français, il disait que stratégiquement, c'était le politique qui devait être au devant et non pas le porteur d'armes. Ce que Mohamed a été à un moment envoyé en Allemagne pour ramener des armes pour le FLN. Donc il a quand même eu une part dans le transfert des armements depuis l'Allemagne vers la France.
Donc, grâce à la quatrième internationale de Houdjerbel.
Oui, alors pour ce qui est des trotskistes, on a, Benjamin Sora a parlé tout à l'heure de Pablo, de Michel Raptis. Il faut rappeler pour les auditeurs qui ne le savent pas que Michel Raptis et tous ses camarades de son courant, qu'on appelait le courant pabliste, ils ont été au Maroc et ils ont constitué les cadres de l'usine de fabrication des armes et des explosifs pour le compte de l'ALN. C'est-à-dire que c'est la tendance trotskiste qui était complètement dans la lutte armée du FLN. Et c'est la raison pour laquelle, quand il est arrivé en 62, quand on lui a demandé d'être conseiller à la présidence, donc il a fait appel à Michel Raptis, donc à Pablo, pour développer la politique d'autogestion et de socialisation.
On va parler de ça, Rachid, le courant
politique était dans la pensée et dans l'acte et dans l'action de Mohamed Harbi.
D'accord, merci Dahoud Jabal. Rachid Belhaddadi, vous vouliez réagir?
Oui, très très rapidement par rapport aux trois questions qui viennent d'être soulevées, que je n'ai pas eu l'occasion d'aborder. Je vais commencer avec la dernière. En fait, il faut avoir à l'esprit que les affrontements FLN et MNA ne remontent pas à 56. Les affrontements, on peut même dire, ils remontent au temps du CRUA. Ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'histoire de la Fédération savent très bien que autour du printemps 54, voyons donc le géniteur de la révolution algérienne, Didous Mourad et son supérieur qui était Mohamed Boudiaf, ils ont quitté dans la précipitation la France parce qu'ils ont été menacés par les messalistes parce qu'ils pensaient que le CRUA était trop proche des centralistes. Donc, ils ont dû quitter rapidement. Dès que le FLN, Fédération de France du FLN, a commencé à prendre corps, on parle de janvier 55, les affrontements ont commencé. Ils ont culminé en 57, effectivement, et ils ont atteint un seuil incroyable, parce qu'on parle de 4000 morts et autour de 10 000 blessés. C'est clair qu'ils sont déplorables, mais dans le même temps, la lutte contre le MNA, c'était une directive du CCE d'abord, du GPRA ensuite, le comité fédéral, je ne suis pas ici leur défenseur ni leur avocat, ils étaient tenus d'appliquer ce qu'on leur dictait et on leur a dicté de faire la guerre à outrance aux messalistes. Deuxième point aussi sur lequel la Fédération de France n'avait pas son mot à dire, sur lequel mes collègues sont revenus tout à l'heure, c'est l'ouverture du deuxième front. Je l'ai dit dans ma présentation, l'ouverture du deuxième front était prévue de longue date, dès la constitution de la Fédération. C'est juste le conflit interne FLN-MNA qui l'a retardé. Là aussi, sur cette question-là, je pense que la Fédération de France n'avait pas son mot à dire. Là où la Fédération de France avait son mot à dire, c'est concernant le déménagement. Le déménagement, il n'a pas été imposé. C'est une initiative du comité fédéral. Et cette initiative, quand elle a été mise de l'avant, ils étaient six au sein du comité fédéral. C'est Harbi, hein, je reprends tel quel les propos de Harbi. Il y a eu un vote. Il y a eu un vote, trois pour rester en France et trois pour partir. Et ils ont probablement un article quelque part qui spécifie qu'en cas d'égalité, la voix du président, c'est-à-dire Boudaoud, était prépondérante. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas une certaine, on va dire, démocratie dans le fonctionnement du comité fédéral en tant que tel. Dernier point, ben j'y reviendrai tout à l'heure. Vas-y, continue, parce que j'ai pris des notes pour vous parler.
Parfait. Nasser Djabi, vous disiez tout à l'heure, vous évoquiez ce qui caractérisait Mohamed Harbi, c'est son indépendance. Est-ce que cette indépendance, cette istiklaliya hadi, l'ikhlat ou un peu marginalisé? Vous aviez parlé de l'Algérie indépendante, qui n'a jamais été invitée aux universités à donner des cours, des conférences, mais même durant la lutte de libération nationale, on dirait qu'il a été aussi marginalisé. Est-ce que c'est cette indépendance-là qui lui a joué des tours, si j'ose dire?
C'est sûr, Rabah. C'est Mohamed qui est indépendant, وكان وبقى مينوريتير نظن انا نظن بانه بقى مينوريتير توت لا بيريود تاع الموفمون ناسيونال وتاع ثوره الحرب. يبان هذا في موقفه من داخل الحركه الطلابيه من استعمال العنف المسلح من دون قياده سياسيه في فرنسا، من الصراعات اللي حصلت من بعد في تونس في القاهره داخل السيانارا، في الصراعات الفكريه اللي حصلت مع ميثاق طرابلس، مع ميثاق الجزائر بعد الاستقلال. انا اظن بان ما كانش حربي ما كانش ممثل لتيار قوي حاضر داخل الحركه الوطنيه وثوره التحرير. كان شخص وقام بقراءه فرديه تعتمد على في حركه اللي ما تقبلش فصيلمون، ما تقبلش بسهوله المواقف السياسيه والتحليل السياسي والراي السياسي. الحركه كانت يونانيميست، اون ايتي دوفون ان موفمون يونانيميست. القياده هي اللي تقرر، هي اللي تقول ما يجب ان يكون وما لا يجب ان يكون، في حين حربي كان من راي اخر، رايه انه لابد من التفكير، لابد من اقتراح البدائل، لابد من اقتراح الاشياء. ومن هنا انا تكلمت مع اسم محمد الله يرحمه اكثر من مره حول الموضوع، وهو نظن في كتبه يتكلم عليها اكثر من مره، وين يقول بان لولا بعض التدخل من بعض الوجوه السياسيه لربما كان وضع ما كانش يستمر، يعني كان ممكن يوصفها، كان خايف على روحه في فترات تاريخيه محدده، لانه دخل في مواجهة مع قوى سياسية منظمة وكان تلجأ بسهولة إلى العنف. أنا أظن بأن حربي كان واعي وكان على باله بخطورة مواقفه السياسية، وحتى خطورة مواقفه على المستوى الذاتي، على المستوى الفردي، سلوكه الفردي، علاقته. إحنا يجب نتخلصوا من هذه الرؤية الملائكية للأفراد، علاقته مع المرأة، علاقته مع الفرنسيين، علاقته مع جبهة التحرير، حريته الشخصية في سلوكه اليومي، كلها كانت تخليه مش سهل أنه يستمر في حركة اللي كانت لا تقبل بالتفرد، لا تقبل بالخصوصية، لا تقبل بالرأي المستقل، حتى وإن كان خاطئ أو غير خاطئ، لكن الرأي المستقل لم يكن مقبولا في داخل تنظيمات، داخل مؤسسات الحركة الوطنية وحرب التحرير. وبالتالي كان حربي، أنا زهوان يتكلم عليه، هذه فرصة باش نتكلم على حسين زهوان كذلك الله يرحمه. كان قريب جدا من حربي، وكان هو ممثل تاع التيار دوري بور تاع دو افلان ودو موفمون ناسيونال مع حربي. إذن أنا أظن بأن حربي ليس ممثلا لتيار سياسي واسع داخل جبهة التحرير، وكان يقوم بعمل فردي كشخص كمثقف في حركة سياسية اللي كان ضعيف. فلان PPMTLD فلان بعد كان ضعيف على المستوى الفكري، كان ضعيف جدا على المستوى الفكري، وكان قام بعملية انتقاء. لفلان PPMTLD كان والدليل على ذلك هو بعد ضعف اليسار، حربي كان ممثل، كان على حافة حدود بين الحركة الوطنية واليسار الأوروبي واليسار الفرنسي، وكان في مكان متحرك سورا سابل موفمون، يعني وكان في حالة حرب وفي حالة تصفيات وفي حالة دونك. هذه هي قوة حربي، أنه استطاع أن يصمد وأن يستمر وأن يصل بالسفينة حتى بعد الاستقلال، ويعرف ما عرفه بعد الاستقلال، علاقته مع بن بلة، وصوله للرئاسة، دوره على مستوى الإعلام تاع جبهة التحرير، وبعد دخوله للسجن وهروبه من الجزائر.
شكرا الأستاذ جابي. علي جنون، venons maintenant après l'indépendance. Après l'indépendance, le président Ben Bella l'appelle pour le désigner comme conseiller donc à la présidence, chargé du secteur, ce qu'on appelait à l'époque du secteur socialiste, et notamment de l'autogestion. Donc, Harbi disait qu'il était responsable intellectuel, pour ne pas dire opérationnel du mouvement autogestionnel. Il est sévère, lui, par rapport à l'expérience de l'autogestion, qui, il dit à un moment donné qu'elle échoue au bout de quelques mois parce que c'est des responsables parachutés qui dirigeaient les domaines autogérés. Il est aussi désigné en même temps, en tant que responsable du secteur socialiste, à la tête de la Révolution africaine, à l'époque, donc un journal orienté vers les questions internationales. Donc, il cumule les deux fonctions et il opère un recentrage sur les questions nationales. Il intègre aussi beaucoup d'Algériens, alors que la première équipe était formée surtout d'Européens. C'est-à-dire, là-dessus aussi, Ali Gnoun, il était responsable, on le disait, on le connaissait. Moi, personnellement, je le connaissais comme un des acteurs du mouvement autogestionnaire, mais il est critique vis-à-vis de cette expérience-là.
Oui, bon, il n'était pas seul, mais c'est vrai, je rejoins une autre fois Nassar en disant minoritaire. Il était minoritaire aussi. Hein. S'il a rejoint Bembella, ce n'est pas pour avoir un poste. Il a rejoint Bembella parce qu'il avait un projet. Le projet, ce projet a été discuté avec Bembella. Tu as parlé de l'autogestion, ben c'était son projet. Hein, et donc, Bembella n'a pas tenu sa promesse. Après, d'ailleurs, il a été marginalisé. Et après, même pour ce qui est de révolution africaine, comme on sait, il a été évincé. Il a eu des difficultés énormes pour diriger ce journal. Et c'est très important de le dire. Pourquoi ? Parce qu'il voulait développer des choses, moi, j'ai eu des discussions avec, par exemple, certains militants de Kabylie, Ali Zahmoum et d'autres, ils ont vécu un petit peu le même problème avec Bembella, y compris donc sur l'autogestion et sur le FLN lui-même, c'est-à-dire que quelle place pouvaient occuper les militants de base dans ce courant, dans ce parti. Alors, si je reviens toujours à dire qu'il était minoritaire, mais il était minoritaire pas seulement chez les politiques, mais aussi chez les intellectuels. Il a pris des positions extraordinaires par la suite. Par exemple, dans tous ses travaux, il a montré justement qu'il était contre le discours uniciste dont parlait Nassar. Et pourquoi ? Parce que, en fait, pour lui, le discours uniciste éloigne une bonne partie des Algériens. Et il a averti aussi sur les dangers de la manipulation des différences régionales dans ses écrits, à partir de 80, à partir de son fameux texte dans « Peuple méditerranéen ». Rappelons autre chose, c'est qu'il était le seul un chef du FLN, du comité central, qui s'est soulevé contre la torture exercée sur les militants du FFS. Donc, il gênait, il dérangeait partout, tout le temps, mais comme je l'ai dit, non seulement il dérangeait chez les militants, chez les politiques, mais il dérangeait aussi chez les intellectuels. Il s'est retrouvé presque minoritaire, hein.
Merci. Donc, même question à Dahoud Djerbel sur cette période-là où il est conseiller de Bembella, responsable du secteur socialiste, mais aussi responsable de Révolution africaine. Ali Gnoun vient de dire qu'il était, il n'avait pas des mains libres. Dans quel contexte il a pu exercer ces fonctions-là? Il a essayé aussi de faire des choses. Il avait des contacts avec des collaborateurs à l'international. Généralement, beaucoup de gens de gauche et d'extrême gauche. Il a, par exemple, des contacts avec le centre anarchiste de documentation de Yougoslavie à Genève. Est-ce que c'est le fait que les idées, comme il le dit lui-même, que son courant était minoritaire dans la société? En fait, il disait qu'on surestimait l'ancrage des courants radicaux comme celui qu'il pouvait représenter.
Il faut rappeler que Mohamed était donc conseiller à la présidence et chargé de l'orientation de la politique d'autogestion et donc de la socialisation du secteur économique, du secteur productif. Et donc le secteur autogéré était voué à l'échec. Pourquoi? Le principe d'abord, c'était que les travailleurs soient responsables de leur outil de travail. Donc ils prennent en charge les conditions de la production et les conditions économiques dans le pays. Donc c'est une option socialisante qu'il représentait, mais que pour que l'autogestion réussisse, il fallait que tous les autres appareils d'État puissent soutenir l'autogestion. Or, les cadres qui allaient s'installer dans le secteur financier et bancaire, les cadres qui s'installaient à la tête du FLN qui commençait à devenir un parti unique de type totalitaire, donc n'étaient pas tout à fait prêts à aller dans cette direction. Donc il y a en fait un conflit dans les choix stratégiques de l'État algérien et les choix stratégiques du FLN en ce qui concerne la propriété des moyens de production et la destination du produit de la production des travailleurs. Parce que dans la charte de Tripoli, comme avant, dans tous les congrès du PPA-MTLD et avant ça, les congrès du PPA, La révolution algérienne devait revenir au peuple et donc revenir à ceux qui travaillaient, que les terres revenaient à ceux qui les travaillaient. Or, il se commençait à se constituer une couche dans l'appareil d'État qui était opposée à cette tendance. Et la lutte va se déplacer dans le domaine des programmes de la révolution. Et il faut rappeler que c'est avec Hossein Zerwen, le plus jeune membre du bureau politique du FLN, entre 62 et 65, représentant de la fédération de la zone autonome d'Alger du FLN. Donc, ils vont être les éléments moteurs de la charte d'Alger de 1964. Et la charte d'Alger, j'invite tout le monde à y revenir, si on retrouve les archives, en tout cas on les a à la revue NARC, c'est une charte sociale de socialisme, d'économie socialiste et d'État socialiste et de société socialiste. Et ça, je pense que c'est le point nodal de la contradiction entre le courant que représentent Mohamed Harbi et Hossein Zerwen et la majorité de la direction du FLN à l'époque. D'autant qu'on commençait à vouloir mettre la main sur l'UGTA. Souvenez-vous que l'IGTA, pour ceux qui étaient encore suffisamment âgés pour pouvoir s'en souvenir, l'IGTA, tous les 1er mai, c'était des manifestations partout dans tout le pays, des manifestations de masse. L'IGTA devenait une force politique réelle. Et l'IGTA, donc le FLN a voulu mettre la main sur l'IGTA et on l'a transformé en organisation de masse. Et donc Harbi et Zerwen ont été pour le secrétariat général de l'UGTA, contre la direction du FLN. Entre 1962 et 1965. Et quelques semaines avant le 19 juin 1965, il était question d'une rencontre entre trois partis, le PCA, le FLN et le FFS, pour faire une charte d'une Algérie démocratique et populaire. Et quelques semaines après, il y a eu le coup d'État militaire. Donc, il faut vraiment mettre dans ce contexte-là, disons, les idées, l'orientation et l'action d'un groupe au sein du FLN qui voulait faire, en fait, de l'Algérie indépendante le résultat de la révolution algérienne. Pourquoi on dit Thora Jazeera? Pourquoi on dit la révolution algérienne et non pas seulement la guerre pour l'indépendance ou la guerre de libération? Donc, c'était ça qui était l'enjeu, d'autant que le congrès de Tripoli, au congrès de Tripoli, les divergences tournaient autour de cela, effectivement, aussi. Et c'est la minorité que représentait Mohamed Harbi qui a été, disons, détruite en 1965, le 19 juin 1965, par l'arrestation et par la mise en détention et la torture.
Avant de poser la question à Rachid Belhadadi, il y a une question d'un internaute, Karim Bouaou, curieux de savoir si Hossein Aït Hamed et Mohamed Harbi se sont rencontrés. Oui, ils se sont rencontrés, je pense, à partir de 1976 ou quelques dans ces années-là. Ils sont devenus même amis, ils se voyaient régulièrement, disait Mohamed Harbi lui-même. Rachid Belhadadi, justement.
Juste pour compléter, Rabah, pour compléter par rapport à cette rencontre, en réponse à notre collègue et ami Kérimo, non seulement ils se sont rencontrés, mais aux élections de 1999, Mohamed Harbi a appelé à voter Hossein Aït Hamed. Mais je pense qu'il a ajouté quelque part, pour faire diversité, j'appelle à voter Hossein Aït Hamed, quelque chose qui ressemble à ça.
D'accord. Donc, pour cette période d'après l'indépendance, Harbi, il disait que le courant qu'il représentait, le courant véritablement de gauche, était le mieux préparé à construire l'État algérien, le nouvel État. Sauf que c'était le moins ancré dans la société algérienne et surestimait justement ça, ce qu'il pouvait représenter. Donc, il a été coincé entre un courant libéral et un courant qui se basait sur la paysannerie et aussi donc réactionnaire par rapport à un certain nombre de décisions qui ont été prises dans le cadre de l'autogestion, désignant donc l'ennemi communiste, athée, etc. Et le courant populiste nationaliste que pouvait représenter Boumdiène. Donc c'est là que, de ce que j'ai compris, ce qui a permis justement au coup d'État pour débarrasser donc pour prendre le pouvoir contre le régime de Ben Bella et l'orientation qu'il a pu prendre après l'indépendance grâce à l'influence du courant de Harbi.
Et la question est
La question, je voulais justement, est-ce que vous avez des choses à nous dire là-dessus, des faits historiques qui explique justement ce que dit Mohamed Harbi là-dessus.
Moi, comme je l'ai spécifié dès le départ, j'ai essentiellement travaillé sur la période 54-62. Je peux toujours essayer de répondre, mais je vais aller dans l'improvisation, ce qui ne me ressemble pas beaucoup, si ce n'est peut-être pour dire que les choix qui ont été faits, ce sont tous des choix qui se sont avérés par la suite plus que discutable. Par contre, il y a une phrase tout à l'heure que je n'ai pas eu le temps de finir, quitte à vous faire revenir en arrière juste pour une minute, je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase concernant le déménagement du comité fédéral vers Cologne, vers l'Allemagne. J'avais dit que ça, c'était une décision du comité fédéral. Et je pense, ça c'est une opinion, je pense que ça a relevé de la feuille de route qui a été dessinée à Abban. Non seulement il doit améliorer la fédération de France du FLN, mais il doit mettre un haut là j'ai décrit tout à l'heure qu'il y a eu trois arrestations massives en mai 55, l'été 56 et février 57 de la direction qui a été décapitée trois fois. Donc parmi la feuille de route qui a été assignée à Omar Boudaoud, il faut mettre un terme à cette décapitation des différentes fédérations. Et c'est de là qu'a germé l'idée de ce déménagement. Et le déménagement n'a pas été improvisé juste en arrivant. Boudaoud est arrivé en juin 57 et le déménagement a eu lieu en avril 58. Donc clairement, peut-être que d'autres possibilités ont été étudiées. Et pour montrer à quel point peut-être que cette décision de déménager a eu un apport positif, il suffit de comparer. En deux années, trois fédérations ont été décapitées suite au déménagement. Jamais la tête de la fédération n'a été touché jusqu'à l'indépendance. Et comme on dit, on analyse l'arbre, on évalue l'arbre à ses fruits. Quand vous voyez ce que ça a donné comme incidence, s'il n'y a pas eu ça, on n'aurait pas eu le 17 octobre 1961, également œuvre de la Fédération de France du FLN, dont la tête se trouvait en République fédérale d'Allemagne à l'époque.
Parfait. Dahoud Djerbel, on va évoquer avec vous l'ORP. Quel rôle a pu jouer Mohamed Harbi dans cette organisation qui a été créée juste après le coup d'État de 19 juin 1965 et qui a très vite été démantelée en arrêtant ses principaux fondateurs?
Il y a deux facteurs dans le démantèlement de l'organisation de la résistance populaire qui a été créée pour s'opposer au coup d'État militaire, parce que les militants du FLN autour de Mohamed Harbi de Hossein Zahouane avaient pensé et croyaient qu'il y a eu un courant à l'intérieur du FLN qui allait s'opposer à la prise de pouvoir par l'armée en Algérie. Mais en fait, il y a eu beaucoup de retournements de veste. Il y a eu beaucoup de gens qui ont, disons, quitté les rangs de l'OLP ou de l'ORP et rejoint le programme représenté par les partisans de Boumediene. Et y compris la décision du PCA, des militants du PCA, de revoir leur position et de rejoindre progressivement le groupe qui dirigeait autour de Boumediene le nouveau gouvernement algérien, le nouveau pouvoir, comment dire, algérien. Donc au fond, Mohamed Harbi, Hossein Zahouane et quelques autres représentants de gauche du FLN ont été arrêtés, torturés, envoyés à Lambèze, puis assigné à résidence à Adrar, puis ensuite assigné à résidence à Tizi Ouzou pour Hossein Zahouane et à Skikda pour Mohamed Harbi. Donc au fond, la dispersion de la résistance au coup d'État militaire a été, disons, accélérée, provoquée aussi par des éléments qui, à l'intérieur même de l'OLP, de l'ORP, étaient des éléments infiltrés ou noyautés ou qui ont tourné Kazakh au dernier moment. Donc au fond, c'est des questions importantes dans notre histoire. C'est de savoir que des gens qui étaient ultra-bembélistes dans le FLN ou dans l'UGTA ou dans d'autres organisations de masse, qui retournent la veste rapidement, et c'est une leçon politique pour l'histoire contemporaine de l'Algérie, pour l'histoire du temps présent, quand on retrouve des gens qui sont dans l'opposition radicale et puis que quelques temps plus tard, on va les retrouver dans l'appareil gouvernemental, dans l'appareil de la sécurité ou dans d'autres appareils de l'État. Donc il y a un problème qu'on a abordé au fur et à mesure de cette rencontre, c'est la question du politique. C'est donc la question de la position du politique et de la position des politiques à l'intérieur des choix de la société algérienne, des choix du peuple algérien et de ses représentants. Donc, il y a un problème sérieux dans cette période-là. Et ce qui est étonnant, si je peux me permettre de rappeler, hier au journal de 20h de la télévision algérienne, donc on a évoqué le parcours de Mohamed Harbi. Et on a évoqué son parcours militant, puis on dit dans le journal qu'en 1962, il a arrêté de faire de la politique et il a commencé à écrire et à publier ses travaux. On a sauté à pieds joints entre la période de 1962 et de 1960, jusqu'à 1973, pas un mot dans la déclaration du journal télévisé de 20h d'hier. Donc, voilà, en gros, que jusqu'à aujourd'hui, le politique est évacué. Le débat sur des questions politiques centrales, sérieuses, sont évacués jusqu'à ce jour. Mohamed Harbi n'a jamais pu avoir ses propres livres dans les bibliothèques de l'université d'Alger ou des universités algériennes. Les manuels scolaires n'ont jamais cité des passages de ces travaux dans l'histoire du nationalisme ou dans l'histoire de la guerre de libération. Donc là aussi, il y a une question importante que nous devons poser et réfléchir sur la fonction du politique dans le débat actuel sur l'état de l'Algérie et sur son devenir. Des décisions sont prises qui vont de plus en plus à l'encontre du credo de la révolution algérienne tel qu'il a été défini dans les différents congrès du PPA, MTLD ou les différents congrès du FLN. Donc ça, c'est des questions importantes que je pense Mohamed posait. Il identifiait en fait les courants, les représentants de ces courants. Il faisait la radiographie des positions des uns et des autres. Et je rappelle pour tout à l'heure, on l'a pas dit, Nasser en a parlé, qu'il a été à plusieurs reprises, il a risqué sa vie, on l'a menacé de liquidation. Premièrement, en quittant la Fédération de France du FLN en 1958. Et deuxièmement, quand il a rejoint le GPRA et même comme conseiller de Krim Belkacem, son affrontement avec Menjli, qui a décidé de le passer au Conseil de la Révolution en procès, devant le Conseil de la Révolution. Et là, il était menacé également. Et c'est la raison pour laquelle il a été envoyé par des gens qui n'étaient pas d'accord avec sa liquidation, il a été envoyé comme représentant en Guinée. Donc, au fond, c'est des questions importantes qu'il soulevait. Il les a soulevées avant 58, il les a soulevées après 58 dans le GPRA, et il a continué à les soulever, les mêmes questions, la primauté du politique sur le militaire, bien avant le congrès de la Souma. Ça, il faut le rappeler.
Merci de le rappeler, Dakhouter Bana. Nasser Djabi, Mohamed Harbi disait qu'il a été désigné par Ben Bella en lui disant texto, je veux me débarrasser des désignés à la tête de la révolution africaine, je veux me débarrasser des libéraux. De ce que j'ai écouté de ces vidéos qu'il a faites sur YouTube ces dernières années, j'ai senti qu'il y a quelques personnes de son courant politique qui ont sous-estimé ou en tout cas qui se sont trompées sur l'orientation qu'allait prendre le pouvoir de Boumdiel qui a fait le coup d'État donc en 1965. Ils pouvaient penser que c'est des libéraux alliés donc au courant conservateur qui avaient pris le pouvoir. Donc ils ne pensaient pas que Boumdiel allait nationaliser des secteurs économiques, les hydrocarbures, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse? Je pense que même Mohamed Harbi l'a faisait.
أنا أظن بأن حربي يتكلم كثير على اختلاف التقييم السياسي لنظام بومدين، كيفاش المجموعة هذه اللي كانت تتكلم باسم اليسار اختلفت كثيرا في تقييمها لبومدين، ويتكلم هو على بعض الوجوه، بعض الشخصيات نتاع بار اكزامبل العلاقات اللي كانت أقامها واسمو لو اللي من بعد ولا أبوك وزير العمل، وش اسمه لي وزير العمل نسيته، وزير العمل عام
65
جو سي با مينيستر دي ترافاي، وش اسمه لا بور دير باللي الانقلاب تاع بومدين ما كانش فيه تقييم واحد، كانت مواقف مختلفه وكانت قراءات مختلفه. اليسار في البدايه، اليسار الشيوعي هذا كان يقول بانه انقلاب أمريكي وبأنه جاي في إطار ردة يمينية حاصلة في العالم الثالث. الحربي الجماعة الأخرى كانوا يقولوا لا، نحن نعرفوا بعض الوجوه من هذو الانقلابيين، هذو الناس اللي قاموا بالانقلاب كما زبيري، كما بومدين، كما سعيد عبيد، كما هذو الجماعة، خاصة القيادات اللي أصولها من الشرق الجزائري وبأنهم في نهاية الأمر أبناء الشعب، كانوا يقوموا بتحليل سوسيولوجي للقيادة الجديدة بأنهم أبناء الشعب وبأنهم يمكن أن نثق فيهم وعندهم عمق شعبي وعندهم عمق فلاحي، وأنهم لا يمكن أن يكونوا في الاتجاه هذا اللي راه يتصوروا القراءة اللي سايدة في الستينات اللي هي تاع الحرب الباردة. يعني كانت قراءة تعتمد على الحرب الباردة، كاين يسار وكاين يمين وكاين أمريكا وكاين روسيا، والانقلاب هذا تاع بومدين هو جزء من هذا الردة اللي كانت تقودها أمريكا في العالم الثالث. بعد اكتشفوا، أنا أظن بأن مش عارف ما فيش دراسات كافية، أنا ما تكلمتش كثير مع محمد الله يرحمه حول علاقته كيف يقيم بومدين، كيف يقيم بن بلة. أنا أظن بأنه هو بومدين على الأقل، بومدين كان يتمنى، نظن يتمنى أن يتقرب منه حربي. بومدين كان ماهوش قاطع الأمل، ماهوش يائس من حربي.
كان دار له اقتراح بالكل رجواني
وبومدين كان عنده عقدة شوية مع المثقفين، الناس اللي خاصة عندما يكتشف بأن هذه الآراء السياسية اللي كان يدفع عليها حربي عندها عمق أخلاقي، معتمدة على أخلاق ماهيش معتمدة على السياسة فقط، وأنه كان على استعداد لدفع جزء من حرياته وحياته للدفاع عن مواقفه السياسية. أنا أظن بأن هذه في هذا الإطار هذا اللي ممكن نفهمه لماذا بومدين بعد تشدد مع حربي، لأنه شاف بأن كان يفكر بأنه ممكن يكون معه وما كانش معه، وأن وبومدين نفس وحربي نفس الشيء. حربي حتى السنوات الأخيرة عندما يتكلم على بومدين في احترام كبير لبومدين، يتكلم عليه باحترام ويقول لك بأنه كان رجل دولة وبأنه كان عنده مواقف وطنية وعنده هو ممثل لهذه الفئة الشعبية الريفية بليبيان اللي حبت تبني دولة مستقلة إلى آخره. أنا أظن وخاصة عندما حربي ما ننساش هذا الجزء من حياة حربي، عندما حربي راح القاهرة وتعرف على هذاك اللي كانوا يسموه اليسار العربي أو اللي كان موجود في مع 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 يسار ناصر، يسار جمال عبد الناصر، وحربي دخل معاه في نقاشات وتعرف عليه مباشرة، لطفي الخولي والجماعة اللي كانوا في اليسار تاع التجربة العربية واليسار هذه المصرية. إذن باش ما نطولش كثير، أنا أظن أن حربي بقى ما كانش ممكن يكون حاضر بقوة داخل مؤسسة الاستقلال، لأن مؤسسة الاستقلال سيطرت عليها ثقافات أخرى كما قال دحو، ظهرت الانتهازية، ظهرت الجانب الفردي، ظهرت التربح، الناس ولو يفكروا في أشخاصهم في حياتهم كانوا يفكروا. حربي ضحى، وش كان عنده أملاك في الجزائر، حتى الدار تاعو أخرج منها، حتى السكن تاعو أخرج منه وهدد، وكان ممكن يتصفى في الفترة هذه. أنا أظن بأن بومدين وحربي وهذه طيب أحمد، الجزائر ضيعت إمكانية اللقاء بين هذه الوجوه، وأن الحياة السياسية في الجزائر كانت حياة مضطربة، وبعد الاستقلال ظهرت هذه التيارات الانتهازية التي سيطرت، وظهر الريع البترولي، ظهر الريع تاع الدولة، ظهرت المناصب. حربي كان ضد الحصول على مناصب، وكان ضد أنه يصبح مسؤول كبير في جبهة التحرير أو في وسائل إعلام جبهة التحرير أو في وزارة الخارجية. كان ممكن يستمر في مواقع المهنية على مستوى وزارة الخارجية، رفض واتخذ مواقف. أنا أظن بأن الإشكال، سأنهي بهذا، حربي طرح مشكل أخلاق سياسة، هل سياسة تنجز وتقام من دون أخلاق، من دون قيم، أم أنها يجب أن تبقى بعيدة عن هذا الجانب؟ وحربي اختار أن ينجز، أن يقوم بعمل سياسي معتمد على أخلاق، وهذا ما غاب في الجزائر بعد الاستقلال.
شكرا أستاذ. avec ces mots importants que vous soulignez justement sur l'éthique, le sens de l'éthique qu'avait Mohamed Harbi. On va clore donc cette rétrospective du parcours de Mohamed Harbi et je vous poserai, évidemment, on n'a pas épuisé toutes les questions, ça prendrait des heures et des heures, plusieurs émissions, mais comme je le disais au début, c'est une émission hommage, un premier hommage rendu à ce grand penseur, à ce grand nom du mouvement national, de la lutte de libération nationale. Ma question ultime, dernière question que j'ai à vous poser, c'est quel héritage laisse Mohamed Harbi? Donc, on sait qu'il a écrit beaucoup de livres, il a laissé aussi 39, je pense, vidéos d'1h30 minimum chacune, que certains demandent à transcrire, mais au-delà, c'est quoi l'héritage de Mohamed Harbi? Ali Gnoun, pour commencer.
Oui, alors juste, je dirais deux mots sur la question qui a été posée sur sa relation avec Aït Ahmed. Depuis, au moins depuis 80, ils étaient très liés et j'étais témoin de rencontres entre les deux et ils s'appelaient souvent et il y avait en fait une convergence d'idées sur des questions politiques, mais surtout sur des questions démocratiques. Alors, Harbi a toujours, entre guillemets, navigué à contre-courant de la doxa nationaliste qui est contre la diversité des idées, la diversité du cours. On n'a pas évoqué son dernier acte, j'allais dire politique, c'est la publication, c'est la traduction de ses mémoires. Une vie debout en langue tamazir. Et on se trompe souvent en parlant de lui et de son engagement sur cette revendication. En fait, il a toujours placé cette revendication comme une revendication démocratique qui repose sur les rapports civils entre l'État et la construction en Algérie. En fait, pour lui, c'était une question éminemment démocratique. Il a montré en 1975, je pense, dans une publication. Et puis la publication aussi d'Idir Louatani dans la revue Souhel. Et aussi, il ne faut pas oublier que Harbi est l'un des fondateurs de la revue Nord. Et là, je préfère que Dahou et Nasser en disent quelque chose parce que c'est une revue quand même extrêmement importante qui, elle aussi, dérange. Donc, Harbi a toujours pris des positions très claires sur cette question. Et je me souviens quand ce qui s'est passé à Gigel en 2000, je me souviens pas, je pense que c'était en 2018, quand des parents d'élèves se sont opposés à ce que leurs enfants étudient tamazirt dans les écoles. Et je me souviens très bien, il m'a appelé et je l'ai vu, il était vraiment très retourné, très inquiet parce qu'il m'a dit, là on a touché le fond, quand on touche aux enfants, il ne reste plus rien. Et donc, et c'est la chose qui l'a poussé à justement à prendre cette décision de faire, plutôt de traduire ses mémoires, et pourquoi ses mémoires, c'est aussi un choix politique, et de montrer sa position par rapport à cette question. Voilà, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que je me souviens très bien, quand le travail a été fait, il est sorti, Arsbi Aït El Harbi m'a envoyé quelques exemplaires. En arrivant chez lui, il m'attendait avec impatience. En arrivant chez lui, il m'a dit, Ali, quand il a pris le livre, et d'ailleurs, il a pris le livre, il l'a embrassé. Il m'a dit, Ali, tu m'apportes de la lumière. J'ai dit, c'est toi qui nous apportes la lumière, c'est pas nous, c'est toi qui nous as apporté de la lumière. Et je termine sur ça, c'est-à-dire que Mohamed nous a apporté de la lumière, nous a appris à nous défaire de l'histoire dite officielle et à dépasser les récits sur les récits militants sur la guerre. Donc c'est extrêmement important. Et il a été déçu parce que les écrits aujourd'hui ne sont pas, pour lui, ne sont pas à la hauteur. Et on sait quelque chose sur comment il voyait, comment on appelle ça, tout ce qui se fait à l'université d'Alger, à l'université algérienne. Donc c'est extrêmement important de finir par dire que Mohamed était très inquiet sur cette question, mais il était aussi, il avait aussi de l'espoir dans cette nouvelle génération. Voilà, à peu près.
Merci à Ali Gannon, à Rachid Belhaddadi. C'est quoi l'héritage de Mohamed Harbi?
Harbi, que vous connaissez tous probablement mieux que moi, connu, reconnu mondialement, il avait également une caractéristique unique. Ces deux dernières années, j'ai lu quasiment tout ce qui a été produit, pas juste par Mohamed Harbi, mais par presque tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Fédération de France du FLN. Mais j'ai trouvé chez Harbi une qualité que je n'ai retrouvée nulle part ailleurs. Cette faculté de décrire avec une courte phrase, tout un pan de notre histoire. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que sinon ça, je ne serais pas capable de lire. Je vais partager avec vous deux ou trois très courtes phrases qui résument un peu sa vision de certaines questions que habituellement les historiens mettent des chapitres à décrire. Et ce n'est pas fait que des amis avec ça, en disant que le FLN est le masque de l'ALN. Autre citation... c'est la France qui a créé l'armée des frontières avec la ligne Maurice Schall. Parlant de la crise de 1949, j'ai trouvé chez lui une explication simple et tellement vraie probablement. Il lie ça à la difficulté d'articuler ensemble la nation avec la citoyenneté. C'est tellement simple et c'est tellement vrai.
Merci beaucoup à Rachid Belhaddadi. Tahou Jabal, donc quel héritage, vous, l'historien, qui connaissiez Mohamed Harbi, donc quel héritage nous laisse-t-il aux générations futures, qui, notamment celles qui s'intéressent à l'histoire de notre pays?
La question est difficile parce que quand on parle d'héritage, on parle d'un patrimoine qui va être légué à une génération. Or, après tout ce que nous avons dit, surtout de toute cette période qui va des années 50, 40-50 jusqu'à nos jours, il y a quelque chose qui s'est passé, qu'on retrouve aujourd'hui, c'est la dépolitisation de l'Algérie, de la société algérienne. Et je prends Nasser Djabi à témoin, qui a longuement travaillé sur les élites politiques du gouvernement et de l'armée. Je pose la question maintenant à tout le monde, et puis Nasser est le mieux placé pour y répondre. Combien y a-t-il dans le gouvernement algérien aujourd'hui de gens qui représentent une pensée politique qui soit, disons, représentative d'un courant de pensée ou d'une option économique et sociale ou d'une stratégie de développement parmi les membres du gouvernement aujourd'hui, ne serait-ce que cela? Quels sont les membres du bureau politique du FLN, parti unique aujourd'hui, le parti du FLN, qu'on peut considérer comme des représentants d'un courant politique? Donc, au fond, que dire d'un héritage politique dans une société dépolitisée? Donc, c'est extrêmement important. Deuxième niveau, c'est qu'il a, comme vous avez tous, comme on a tous dit, accumulé ses travaux, ses réflexions, sa déconstruction des mécanismes du pouvoir et des mécanismes de la société profond. Combien de ces travaux, combien de ces chapitres ou paragraphes vous retrouvez dans les manuels scolaires? Combien de ces ouvrages vous retrouvez dans les bibliothèques universitaires? Il y en a une cinquantaine en Algérie. Il n'y a pas une seule bibliothèque universitaire en Algérie qui a, disons, déposé l'ensemble de ses travaux. Donc les étudiants aujourd'hui à l'Université d'Alger en sciences humaines et sociales, et Nassar peut aussi témoigner dans la bibliothèque de Bouzelia ou dans d'autres universités algériennes, combien y a-t-il d'ouvrages de Mohamed Harbi ou de Hossein Zahouan déposés dans les bibliothèques? Aucune. Donc il n'y a pas d'héritage, ni dans les manuels scolaires, donc, ni dans l'éducation nationale, ni dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. C'est ça la question. Au fond, il y a un travail de dépolitisation, un travail de marginalisation, non seulement des hommes de pensée, des intellectuels non intégrés à l'appareil d'État, qui ne sont pas dans des clientèles, et donc ceux-là sont oubliés. Et puis un beau jour, on leur rend hommage, et puis on met un nom sur un amphithéâtre, et il n'y a plus rien d'autre. Donc l'héritage, c'est la pensée. Et avec notre rencontre pour la fondation de la création de la revue NARC, Nassar Djabi est un des membres fondateurs de la revue NARC, c'est trois générations qui sont retrouvées. La génération de Harbi avec Nawar Merouch, Hossein Zahouan, Rachid Zegeg, qui représentait donc la régénération de la lutte de libération. La nôtre avec Saïd Chichi et d'autres universitaires, Majid Benchir, représentait la nouvelle génération d'indépendance qui a hérité donc des travaux et des positions politiques et éthiques, comme disait Nassar aussi, de nos aînés, de nos prédécesseurs, et la génération de Nassar Djabi, qui était la nouvelle génération des enseignants à l'Université d'Alger. Donc voilà, ça c'est l'héritage, il est encore là en attendant que les travaux de Nassar, les travaux de Ali Gnoun, les travaux d'autres historiens et d'autres sociologues.
Ambar Mohand, pour ne pas citer, qui ne pouvait pas être là malheureusement, qui aurait souhaité, mais qui ne pouvait pas être là, oui.
Et qui, entre autres, ne sont pas aujourd'hui communiqués à la nouvelle génération. Et la nouvelle génération d'aujourd'hui ne sait même pas qui est Mohamed Harbi. La nouvelle génération ne sait pas quels sont les éléments directeurs de la révolution. On parle de Thawra, mais on ne sait pas ce que c'est le Thawra. Thawra, pour la plupart des gens, c'est la lutte armée, c'est la guerre de libération, enfin. Or, la révolution, ce n'est pas que la guerre. C'est un peu ma position sur la question des héritages.
Merci beaucoup, Sid Dahoud. Oustaz Djabi, Kalima, Mahoul Erth, l'Oustaz Mohamed Harbi.
انا نظن بان ما يمكنش الكلام على ارث تاع سي محمد الله يرحمه بدون هذه فرضيه التغيير السياسي في الجزائر وعوده الامور الى نصابها صدر الامور ترجع الى وين يكون المجتمع السياسي دور تاع الصحافه دور الاعلام دور الجامعه دور هذه كلها امور مفقوده في الجزائر. انا نظن بان ربما من المهام الاولى هو أن نترجم ما كتبه محمد حربي للأجيال الشابة التي لا تحسن الفرنسية. كاين كتب كثيرة ترجمت كتبها محمد ليزارتيك الكتابات الكتب ما قام به على مستوى اليوتيوب هذه الحصص اللي جميلة جدا الحصص اللي قام بها في السنوات الأخيرة. أنا أظن بأن ترجمة حتى يكون تواصل مع الشباب مع المجتمع الجزائري من خلال ما كتبه حربي، لأن حربي حتى في الجامعة حتى الجامعيين لا يعرفونه كثيرا، وحتى إن سمعوا به هكذا سماعا لا يعرفون ما قاله بالضبط، ما هي كتبه، ما هي إذن أول حاجة هو ترجمة، ترجمة. ثاني حاجة هي هذه الفرضية يجب نبقى متفائلين، نقولوا بأن يجب الجزائر تتغير حتى يرجع حربي إلى الجزائر، لأن حربي أبعد عن الجزائر، هم شامل الجزائر، لم يسمح له بدخول بيوت الجزائريين من خلال وسائل إعلام، من خلال وسائل صحافة. أنا البارح عندما يتكلم التلفزيون العمومي على حربي ما فيش صورة واحدة على التلفزيون العمومي وين حربي يتكلم فيها، وهذا حصل مع كثير من الوجوه. حربي كتبه أنا نعرف باللي كتب تاعه لراجل رياليتي لم ينشر من قبل النقد إلا بعد أكتوبر 82، يعني في بداية 93 دحوسي صح؟
93
دونك الكتب كانت ممنوعة، ما كتبه لم يصل، هو نفسه ما كانش موش مقبول داخل الفضاء العام في الجزائر حتى عندما بدأ ظهور نوع من الفضاء العام. أنا أظن إذن حتى اختصر ترجمة الكتب، لكن المشكلة مش تحربي كشخص، هو الله يرحمه توفى خلاص، هو مشكلة تحديث أمام الجزائريين، أمام الأجيال الجديدة هذه من الجزائريين، كيف تعود إلى السيطرة على مقاليد الأمور في بلدها، كيف نحس أنفسنا بأننا جزائريين وبأننا عندنا حياة سياسية وعندنا حياة ثقافية وعندنا أحزاب وعندنا نقابات وعندنا جمعيات وعندنا، وهذا هي المعركة الكبيرة اللي كان يشتغل من أجلها حربي، لم ينجح ربما حتى الآن، لكن هذه هي المعركة على الجزائريين، وكيف نغرس هذا الفكر التحربي في هذا الإطار، جزائر تعددية ديمقراطية، جزائر متفتحة على العالم، جزائر تقبل بالتنوع بالتعدد، هذا هو التحدي الكبير تاع، وكيف نرجع إلى حربي الديرونجي باسكو كان مثقف ومناضل وكتب كل الأشياء اللي قام بها حربي لم تغفر له لأنه كتب عن التاريخ وحاول أن يمنح تصور وسردية أخرى غير السردية الرسمية، وهذا سكي ديرونجي شي حربي حتى داخل النخب هذه المختلفة، أنه كتب وأخذ الوقت باش يكتب ويعطي معلومات للجزائريين ويعطي للجزائريين سردية أخرى، تصور آخر لحرب التحرير، للثورة الوطنية، للحركة الوطنية إلى آخره. ونظن بأن هذه الأجيال، هذه التحدي لابد ترفعه الأجيال في المستقبل، حربي في مجتمع جزائري متفتح ومتعدد ومتنوع.
شكرا استاذ نصر جابي. ميرسي دونك بروفيسور نصر جابي، سوسيولوج اوتور دو بليزيور اوفراج سور لالجيري سور لي موفمون سوسيو. ميرسي علي جنون، هيستوريان امي بروش دو لي ديفان محمد حربي. ميرسي رشيد بن حدادي، شيرشور اون هيستوار كي اون اتون فوتر ليفر دونك اون هاد دو لو لير اي دو بوفوار اون ديسكوتي. Donc, consacré donc, à la Fédération de France. Merci beaucoup, professeur Dahou Djerbel, historien aussi, et qui a écrit plusieurs ouvrages sur l'histoire de notre pays, dans la fameuse biographie de Bentobel, donc un autre dirigeant du mouvement national, qu'on a déjà eu le plaisir d'accueillir autour de ce livre il y a quelques années. Merci, Benjamin Stora, historien aussi, auteur de plusieurs, de nombreux ouvrages sur l'histoire de notre pays, sur l'histoire du mouvement national, qui a co-dirigé un ouvrage collectif avec Mohamed Harbi. Merci aux internautes qui nous ont suivis ce soir. N'hésitez pas à partager le live de cette émission qui a été bloquée sur Facebook un peu, sa diffusion. Il était plus présent sur notre chaîne YouTube. Donc, Mohamed Harbi est parti. Il est parti rejoindre son ami et son camarade Hossein Zewen, disparu presque dans l'anonymat lui aussi de l'année dernière, en 2025. Mohamed Harbi, on pense à votre famille. On lui souhaite du courage, nos condoléances encore une fois. Et merci à vous tous encore une fois. Bonne soirée tout le monde et au plaisir de vous retrouver dans des émissions qui essayent de contribuer à faire connaître l'œuvre de Mohamed Harbi et d'autres monuments de notre histoire. Merci beaucoup. À la fin.